sur la Agada Pessah. On avait vu le premier récit, souvenez, le récit qui commence à Vadim Aïnou, qui allait jusqu'au bout, je crois, de ce récit. On avait vu les Arba Banim, c'est ça? Corrigez-moi si ce n'est pas comme je l'ai dit à deux endroits, trois endroits. On avait vu les quatre fils, donc le Racham, on a vu ça.
Oui, oui. Oui, oui, on avait vu, terminé là-dessus, oui, oui.
Et puis, on est, à ce moment-là, on a passé au deuxième récit, ce qui semble être un deuxième récit. Est-ce qu'on a commencé ça déjà? Même si on a commencé, je vais recommencer.
Oui, 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 oui.
Le deuxième récit, il commence « Mitrila ofde avodazara ayu avotenu ». Au début, nos ancêtres étaient idolâtres. « Vershav » et maintenant « Kervanu amakom la avodato. Et maintenant, Hachem nous a rapprochés de son service, à son service. Alors, comme dans le premier récit, où effectivement, on avait dit Avadim Aïnou, puis ensuite Vayotsienu Hachem Elokeinu Misham, alors on avait réfléchi sur cette deuxième partie, justement. On était à Vadim et Hachem Elokeinu nous en a sorti. On a dit ce qu'on avait à dire. Et maintenant aussi, on va faire la même chose. Mitrila ofde avodazara ayu avoteinu, ve'achshav kervanu amakom la'avodato. Et si, d'abord, il faut qu'on réfléchisse sur qu'est-ce qui est dit là. Maintenant, Hachem nous a rapprochés à son service, de son service. D'abord, dans le premier texte, le Avadim Aïnou, c'était Vayotsienu Hachem Elokeinu. L'auteur, enfin, on parlait d'Hachem. Ici, on parle de Hamakom. Alors, comme vous savez, Hamakom, c'est aussi un nom d'Hachem. Ça veut dire le lieu. Et pourquoi est-ce que c'est un des premiers, enfin, un nom ancien, quoi, de Hamakom? Et qu'on trouve dans la Tfila aussi. Hamakom, pourquoi Hamakom? Parce que toute chose dans le monde a lieu. Pour dire que quelque chose a lieu, ça veut dire toute chose a un makom. Avoir lieu, lieu c'est un makom, un lieu. Et sauf Hachem qui lui n'a pas lieu, il est lui le lieu du monde. Le monde n'existe que grâce à Hachem. Donc toute chose dont on peut dire qu'elle existe, dire la chose existe, c'est dire qu'elle a lieu. Mais le lieu par excellence, celui qui est le lieu du monde, c'est Hachem. Donc, c'est un nom d'Hachem. Donc, Hachem, ici, nous a kervanu, il nous a rapprochés, karov nous a rapprochés. Donc, c'est de nouveau, comme dans Avadim Aïnou, c'est une démarche divine. C'est Hachem qui nous a rapprochés. D'accord? C'est pas nous nous sommes approchés, c'est pas nous nous sommes libérés de l'esclavage, c'est Hachem qui nous a libérés de l'esclavage, c'est Hachem qui nous a rapprochés. De quoi est-ce qu'il nous a rapprochés? La avodato. Ce mot de avodato, ça veut littéralement avo, eved, ein, bet, dalet, c'est eved, c'est celui qui travaille. Avodato, c'est le travail, son travail à lui. Avodashelo. Il nous a rapprochés de son travail. Vous entendez bien ce qui est dit là, c'est qu'Hachem nous a rapprochés de son travail. Il nous a mis à faire, nous sommes ses esclaves, et un esclave, qu'est-ce qu'il fait? Ben, un esclave, il fait ce que son maître aurait normalement à faire, et le maître, ben, il se décharge de ce qu'il a à faire sur son esclave. C'est pour ça qu'on achète des esclaves, pour qu'ils fassent le job à notre place. Donc, nous sommes au service d'Hachem et donc nous faisons les choses à la place d'Hachem. Vous entendez bien ce que ça veut dire? Hachem nous a installés dans une position où nous agissons en lieu et place d'Hachem. On peut parler comme ça. Bon, c'est... Et qui est-ce... le « nous » en question, le pluriel ici, « kervanu », c'est le même pluriel que Avadim Hayinu. C'est nous. Nous, c'est le clan Israël. On parle ici du clan Israël. Le clan Israël est au service d'Hachem. Ça veut dire qu'il fait les choses à la place d'Hachem. On avait une situation, je vous en ai parlé déjà à d'autres occasions. Il y a une discussion dans la Gemara, hein, si les Kohanim sont Shlokhe de Rachmana ou Shlokhe d'Idan. Est-ce que les Kohanim sont nos envoyés? Ils font ce que le clan Israël devrait faire ou est-ce qu'ils sont les envoyés d'Hachem? Ils font ce qu'Hachem devrait faire. Et la halakha, on dit que les... Alors, c'est tout à fait paradoxal parce que si on prend les choses vraiment de façon en étant un peu pointilleux, qu'est-ce que font les Kohanim? Ils sont les envoyés d'Hachem. Donc, ils font la avoda d'Hachem. Donc, ça veut dire que c'est Hachem qui fait sa propre avoda. Quelque part, c'est comme si Hachem faisait quelque chose. Et qu'est-ce que nous sommes, nous, là, dans l'affaire? Eh bien, nous avons le privilège d'avoir été délégués pour faire les choses à la place d'Hachem. C'est un privilège fabuleux. D'accord? Et ça nous... Évidemment, pour pouvoir agir à la place d'Hachem, ça veut dire agir divinement, il faut qu'Hachem nous en donne le pouvoir. Nous, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas agir divinement. Mais en nous donnant des mitzvot, il nous donne le pouvoir d'agir divinement. Agir selon les mitzvot, c'est agir comme j'ai un metzavé, Hachem m'a ordonné d'agir, ok, j'agis sous ordre, donc j'agis divinement. C'est-à-dire, grâce aux mitzvot, nous pouvons plus que ce que nous pouvons. Nous pouvons faire des choses que nous ne pourrions jamais faire de nous-mêmes. Ça nous permet d'avoir un impact sur des choses qui nous sont largement, qui sont largement au-dessus de nous. Voilà. Ça, c'est. Alors maintenant, Mitrila ofde avoda zara ayu avoten. Alors, bon, on a déjà vu plusieurs fois que l'idolâtrie dans la Torah, et, enfin, dans la Torah au sens large, ça, on n'a pas de mot pour idolâtrie. On dit avoda zara. C'est un travail étranger, un service étranger. Étranger à quoi? Eh bien, tout service qui n'est pas pour Hachem est étranger. Et donc, toute personne qui n'agit pas sur l'ordre d'Hachem, dans ce domaine-là, elle est étrangère. Par exemple, Moshe Rabbeinu, qui viendrait faire le travail d'Aaron, il est zar, il est étranger. Il est disqualifié parce qu'il est étranger. Il n'a rien à faire là. Il n'est pas à sa place. Et donc, l'idolâtrie, c'est un service de trucs auquel on ne devrait pas du tout s'adonner. On ne devrait pas faire ce travail parce que c'est un travail qui est complètement vain. C'est vain parce que l'avoda zara, c'est une avoda qui n'est pas pour Hachem, si on peut parler. C'est une avoda qui n'a pas de place dans le monde, quoi, quelque part. Cette avoda, elle n'a pas de raison d'être. Et donc, on commence par dire que nos ancêtres étaient idolâtres. Bon, c'est qui nos ancêtres? A priori, jusqu'à présent, on a toujours pensé que nos ancêtres, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Or, le texte ici, il dit que ici, notre premier ancêtre, c'est Terach. Bon, c'est pas très loin. Hein. Terach, c'est le père d'Abraham. Notre ancêtre idolâtre, c'est Terach. Bon, Abraham Avinu aussi, il a été élevé dans la maison de Terach, il a fait Avodah Zara avec tout le monde. Dans sa jeunesse, quel que soit le laps de temps de sa jeunesse, il était idolâtre. Bon, la force d'Abraham Avinu, c'est qu'il a été capable de se poser des questions et du coup, de s'arracher à l'idolâtrie. Alors, vous connaissez la question d'Abraham, elle est qu'un jour, il a eu une vision, il a vu un palais en feu, un magnifique palais en feu. Il regarde là, il voit, et il dit, mais personne n'a l'air de bouger, où sont les pompiers? Il n'y a pas de pompiers. Alors, il dit, mais alors, qui est en charge de ce palais? Et Hachem s'est manifesté, il lui a dit, c'est moi qui suis en charge de ce palais. Le palais, c'était le monde qui était en feu, quoi. Il était en train de se détruire parce qu'on était plongé dans l'idolâtrie destructrice du monde. D'accord ? On est après le Maboul. Il y a déjà eu une quasi-destruction. Hachem a redonné une chance avec Noach. Et 10 générations plus tard, c'est la génération d'Abraham, qu'est-ce qui se passe ? La tour de Babel. Abraham est un contemporain de la tour de Babel. La tour de Babel, c'est de nouveau l'idolâtrie. Et Abraham, lui, à ce moment-là, il décide qu'il va faire quelque chose qui, a priori, est complètement fou. D'accord ? Il va faire les choses à la place de l'humanité. L'humanité s'est disqualifiée à la tour de Babel. Et bon, ben, Hachem, bon, son plan, il ne va pas se réaliser. Et Abraham dit, mais moi, je vais le faire. Voilà. Et donc, il va y avoir un accord avec Hachem. Hachem, il admet la démarche d'Abraham. Mais en réalité, le texte nous rapporte que Hachem dit va ekach et Abraham, j'ai pris Abraham, va olechot, je l'ai transporté, va arbeoto, je l'ai multiplié, j'ai donné une descendance, va etenlo, et je lui ai donné Yitzhak, et Yitzhak, j'ai donné Yaakov, etc. Mais en fait, à Yaakov, et donc la première chose qui nous frappe, c'est que Hachem dit c'est moi qui ai tout fait. C'est moi qui ai pris Abraham, je l'ai mis. Dit. Abraham apparaît dans ce texte comme un pion. Un pion qu'Hachem a mis. Il l'a pris ici, il l'a mis là, il lui a donné, il l'a mis là. Donc on est un petit peu dérangé parce qu'on a l'impression qu'Abraham n'a absolument aucune épaisseur psychologique dans ce terme. Il est pris. Donc c'est vrai, tout est fait par Hachem ici. Jusqu'à ce qu'on arrive à Yitzhak Avinu. Et avec Yitzhak, il a 2 fils, Esav, Yaakov. Et le texte dit, à Esav, on a donné à Arseir. On l'a en quelque sorte désintéressé, pour qu'il n'ait pas de revendication sur l'héritage d'Yitzhak. Et Yaakov, c'est Yaakov qui a reçu l'héritage d'Yitzhak. Mais quel est l'héritage? Yaakov ou Banav Yardou Mitzrayma. L'héritage, c'est de descendre en Égypte. Descendre en Égypte. Ah, descendre en Égypte, alors on parle ici de l'Égypte. Donc on est pratiquement au moment où commence le premier récit, Avadim Haïnou. Sauf qu'on n'est pas encore esclave. On est descendu en Égypte. Yaakov est descendu en Égypte avec ses enfants. Comment il est descendu en Égypte, vous savez? Il est descendu en Égypte parce que son fils Yosef était vice-roi d'Égypte et qu'on était en période de famine. Et que Yosef a dit, viens, je vais te nourrir, etc. Et Yaakov, qui était réticent au départ, Hachem l'a dit, tu dois descendre. Donc, tu descends en Égypte. Donc, il descend en Égypte. Et au début, quand ils sont arrivés en Égypte, ils étaient la famille du vice-roi, donc super. Mais avec le temps, il y a eu des changements. Et les Bnei Israël ont été réduits en esclavage. Et à ce moment-là commence le premier récit. On avait lu. Par conséquent, le récit mais ce qu'on en sait de ce récit-là, le reste, ça va être entre le moment où Yaakov, on va parler d'Abraham un petit peu, puis ensuite de Yaakov qui descend en Égypte. On va en parler assez longuement, et puis on va voir comment ça a changé là, comment c'est devenu insupportable. Ce récit-là, curieusement, historiquement, il devrait être avant le récit de Avadim Haïnou. Parce qu'Abraham, c'est avant Moshe. Avadim Haïnou, c'est l'époque de Moshe. Abraham, c'est avant Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est bien avant Moshe. Comment se fait-il que ce récit soit le second récit? Donc, nous, on avait l'impression que le clan Israël est né, on l'a même dit, il est né en Égypte. Nous sommes nés en Égypte. Ok, c'est vrai, on est nés en Égypte, mais ce n'est pas le commencement de l'histoire. L'histoire, elle a commencé avant. D'accord ? Avant de naître en Égypte, il y a toute une histoire. Il y a, si vous voulez, il y a tout le Sefer Bereshit et le début du Sefer Shemot avant qu'on soit en situation d'être réduit, enfin, réduit en esclavage. Il y a toute la Genèse, tout Bereshit. Alors, il faut quand même qu'on y regarde d'un peu plus près. Alors, j'y reviens tout de suite. L'histoire a l'air de commencer en Égypte avec Yaakov. Mais en réalité, on sait bien que l'histoire a commencé avant Yaakov, elle a commencé avec Abraham, qui lui est sorti de la Vodazara. On est sorti de rien du tout. La Vodazara, c'est rien. Donc, on est à part. Quelque chose commence à partir de rien, si on peut parler comme ça. Hachem a fait avec Abraham Avinu un brit, une alliance. Et il lui a promis quelque chose, il lui a promis effectivement que il allait s'occuper de sa descendance, de la descendance d'Abraham. Et il lui dit, c'est mon affaire en quelque sorte, je vais m'en occuper. C'est pour ça que c'est Hachem qui fait tout. C'est moi, c'est mon job, c'est mon affaire, je vais m'en occuper. Mais je m'en occupe, et comment est-ce que je m'en occupe? Je vous choisis. Je te choisis, toi, Abraham et ta descendance. Je vous choisis pour être ceux qui vont réaliser mon plan. C'est moi qui vais le faire réussir. C'est vous qui allez être les artisans de ce plan. Alors, il faut dire une chose encore. C'est que dans la relation particulière que Abraham Avinu a avec Hachem, Hachem lui a proposé un deal, en fait. Il lui a proposé de décider, proposer un choix. Il lui a dit, est-ce que tu veux que ta descendance, elle finisse par mourir, ou est-ce que tu veux que ta descendance, elle aille en exil? Alors, mourir, ça voulait dire quoi? Mourir, ça veut dire être une civilisation comme toutes les civilisations, avec une heure de gloire, un apogée, puis ensuite disparaître, comme toutes les civilisations. Toutes les civilisations sont mortelles. Est-ce que tu veux que ta civilisation, qui sera ta descendance, soit mortelle? Et Abraham a choisi l'exil. Il dit non, je préfère. L'exil, c'est une forme de mort. Quand on est en exil, on meurt à bien des choses, quoi. On n'a pas de pays, on n'est pas autonome, etc. C'est une vie, mais un peu faible. C'est pas tout la vie de l'indépendance. Quand on choisit la mort, avant la mort, il y a l'indépendance. C'est Rome, c'est l'Égypte, etc., les grandes civilisations. Abraham Avinu a choisi l'exil. Et l'exil, on ne savait pas où ce serait, mais Hachem lui a dit, l'exil, ça voudra dire quoi? Ça veut dire que tes descendants seraient esclaves dans des pays qu'ils ne connaissent pas, qui ne sera pas le leur, et on va les faire souffrir. Ils vont souffrir. Mais ils vont sortir de cet exil. L'exil, c'est pas définitif, sinon ce sera quasiment la mort. L'exil prend, il a une fin, l'exil. Et quand cet exil prendra fin, tes descendants, donc les Bnei Israël, quand ils vont sortir de cet exil, ils vont sortir, Birchush Gadol, ils vont sortir avec un grand butin. Le grand butin, c'est pas l'or et l'argent dont on parle clairement dans le texte. Mais le grand butin, c'est justement d'en être. Le butin, c'est que maintenant, voilà, c'est vous êtes les descendants d'Abraham, sont ceux, ils sont ce peuple qui va devenir le peuple d'Hachem. C'est ça le butin. Le grand butin, c'est ces choses extraordinaires d'être capable de vivre à un niveau de vie extrêmement élevé en relation avec, et surtout d'avoir cette promesse qui a été faite avec Abraham, avec nous, que Hachem va s'en occuper. C'est le projet d'Hachem qui est en train de se jouer. Et par conséquent, Hachem gère cet exil. L'exil, il était normalement pour 400 ans. Mais comme vous savez, on est resté en exil 210 ans. Alors on dit Hachem, Chishev et Aketz. Hachem, il a fait le compte. Le mot Ketz, ça vaut, Kouf Tzadik, ça vaut 190. C'est-à-dire, Hachem nous a fait grâce, si on peut parler comme ça, de 190 ans d'esclavage. On est sorti de façon prématurée. Alors, je fais une parenthèse, ce qu'on ne devrait pas faire quand on fait le récit, mais bon, je ne fais pas le récit maintenant complètement. C'est que quand Hachem a envoyé Moshe Rabbeinu pour sauver les Bnei Israël, Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, il lui a dit, mais ils vont me demander qui t'envoie. Qu'est-ce que je dois dire? Alors Hachem lui a dit, tu diras Eke Asher Eke. Je serai comme je serai ou qui je serai. Et ce qui veut dire, dis-leur que je serai avec eux dans les exils ultérieurs comme je suis avec eux dans cet exil. Moshe Rabbeinu l'a dit, ça, je ne peux pas vendre ça, je ne peux pas le vendre, ça. Ils ne vont jamais accepter une chose pareille. Qu'est-ce que je vais leur dire? Écoutez, on va sortir, mais je vous rassure, il y aura d'autres exils. Vous allez souffrir bien d'autres fois. Je vous rassure. Moshe Rabbeinu a dit, ça, je ne peux pas vendre. Alors Hachem lui dit, tu diras seulement à Eke. Dis-leur seulement que je serai avec eux, je suis avec eux dans cet exil. Effectivement, Hachem sera avec nous dans tous les exils, mais dis-leur seulement, ne parle pas d'autres exils. Mon cher Rabbeinu lui-même, il ne voulait pas qu'il y ait d'autres exils. Mais bon, on a bien vu, on est sorti trop tôt. Il faut rattraper ce temps. Il est constitutif, cet exil du clan Israël. Mon cher Rabbeinu a dit à Hachem, il a dit, écoute, au lieu de faire tous les nissim que tu es en train de faire là pour sortir les Bnei Israël prématurément, donne-leur de façon miraculeuse, donne-leur de porter encore 190 ans d'exil, et comme ça on n'aura plus besoin d'exil après. Qu'on en finisse avec la notion d'exil. Hachem n'a pas accepté. Je ne connais pas de Midrash où Hachem argumente, mais on sait qu'il n'a pas accepté, c'est tout. Alors, bien entendu, ce choix de devenir le peuple d'Hachem, en fait, c'est quelque chose qui est inacceptable pour les autres peuples. Au point que on dit clairement qu'au Sinaï, les Bnei Israël, ils ont bien reçu la Torah, mais au Sinaï, les autres, ils ont reçu la Sina, la haine des Juifs. La haine des Juifs, pourquoi? Parce que eux, on leur a proposé la Torah. D'ailleurs, avant de la proposer au Bnei Israël, on l'a proposé au Goïm, mais ils ne l'ont pas acceptée. Et ils ont donné des arguments justifiés qu'ils ne pouvaient pas l'accepter. Mais leurs arguments sont bons tant que personne n'accepte. Quand il y a un peuple qui vient et qui dit « mais nous, on accepte », alors leurs arguments tombent. « Nous, on ne peut pas accepter ». Voilà. Il y a un autre peuple qui accepte, c'est tout aussi inacceptable pour eux, ils acceptent pourtant. Donc il y a de la haine, mais en même temps il y a une autre haine parce qu'ils comprennent, d'accord, c'est pas normal que les Juifs aient un statut à part, mais si déjà ils ont un statut à part, alors qu'ils fassent vraiment bien le boulot. Et alors quand on fait pas, quand nous ne faisons pas le boulot, alors ils nous en veulent aussi parce qu'on ne fait pas le travail. Donc ils nous en veulent pour deux raisons. Parce que c'est parce qu'on a été choisi, et pas choisi, on fait travailler comme il faut. Les gens disent, on est dans un monde, le monde il est là pour qu'on en profite, qu'on développe, etc. Et les Bnei Israël disent, non, le monde, c'est un lieu où on doit servir Hachem. On peut être son esclave, et voilà, c'est Hachem, il a un projet avec le monde, et les hommes doivent être au service d'eux. Bon, ça c'était la parenthèse. Je reviens à un autre problème, on était à Yaakov. On peut dire, Yaakov, c'est pratiquement... Bon, ça commence avec Abraham Avinu, mais Yaakov, c'est celui qui justifie Abraham Avinu. Donc, c'est seulement avec Yaakov qu'il y a la dimension de peuple. Abraham Avinu, il a un seul fils, Yitzhak Avinu, il en a deux, mais il n'y a qu'un seul qui continue dans la bonne voie. Et donc, l'explosion démographique, si on veut, le passage de 1 à 12, d'accord, ça se passe avec Yaakov Avinu. Et donc, ça justifie ce qu'Abraham Avinu, parce qu'à lui tout seul, il ne pouvait pas faire le projet divin. Mais Yaakov Avinu commençait, il a un beau-père. Et ce que nous dit le Baal Agada, c'est oui, Paro, c'était affreux. Mais il y a pire. Il y a pire. La vanne, c'est pire. La vanne, c'est pire que Paro. Pourquoi est-ce que c'est pire que Paro? Parce que Bikesh l'a accord et à col. Le projet de la vanne, c'était de faire échouer complètement le projet d'Hachem. D'accord? Il a essayé, il a trompé Yaakov déjà en ne lui donnant pas la femme qu'il avait demandé. Et ensuite, il a sans arrêt empêcher Yaakov de grandir en changeant sans cesse son salaire, etc. Et puis tout à la fin, quand Yaakov s'en va, et il s'enfuit, et Laban le rattrape et lui dit finalement, tes femmes, ce sont mes filles, c'est à moi, tes fils, ce sont mes fils, et tes troupeaux sont mes troupeaux, tout est à moi ici, tu n'as rien, donc tu n'es rien. C'est la vanne. Bon, Hachem a sauvé Yaakov. Alors, si on y regarde bien, on avait dit, a priori, la naissance du peuple, elle a lieu en Égypte. Maintenant, on s'aperçoit que ça avait commencé bien avant. Et qu'il y a une espèce de naissance du peuple, une première naissance, bien avant, avec Abraham Avinu. En fait, ce qui se passe, c'est que si cette naissance est avant l'autre, alors c'est ça la vraie naissance du peuple juif. On devrait, premier récit, Nitrila Avdei Avodah Zarah Ayu Avoteinu, deuxième récit, dans la suite, effectivement, on a passé par l'étape de, qui était incluse dans ce qui avait été annoncé par Hachem à Avraham Avinu que ses descendants seraient esclaves. Eh bien, ça s'est vraiment réalisé. Et ça, c'est le deuxième récit. Mais c'est peut-être pas comme ça qu'il faut l'entendre. Je crois que c'est au moment de la naissance égyptienne, disons, qu'on prend conscience qu'il y avait autre chose avant. On se rend compte, mais il y avait déjà quelque chose avant. C'est vrai que Rambam dit que les Bnei Israël en Égypte, ils avaient quasiment tout oublié d'Abraham. Tout l'enseignement d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, quasiment tout oublié. Il restait dans la tribu de Lévi, il restait des restes. Eux, ils savaient encore des choses, mais les autres, rien, plus rien. Et les Bnei Israël, non seulement ils ne se rappelaient plus, mais ils sont idolâtres, complètement idolâtres. Mais voilà, ici. Il y a quelque chose qui reste par le biais de la tribu de Lévi. Il reste un fil. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant la naissance, il y avait quelque chose avant la naissance. Et nous, on a tendance à penser que ce qui se passe avant la naissance, ça s'appelle la grossesse. ou même encore avant, ça s'appelle la conception. Donc en réalité, il faut entendre que le Sefer Bereshit, toute l'histoire des Avot, le début des Shvatim, les tribus, tout ça, c'est la grossesse du Klal Israël. C'est la conception et la grossesse du Klal Israël. Le Klal Israël va effectivement naître en Égypte, il s'est développé en Égypte. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire, alors la mère du clan d'Israël, c'est l'Égypte. Bon, mais ce n'est pas vraiment une mère dans la mesure où elle a pas produit la conception. Donc, c'est peut-être une mère porteuse et une mauvaise mère. Et puis, l'épigénèse, en quelque sorte, du clan d'Israël, en Égypte, c'était une épigénèse très particulière, c'est-à-dire c'était sous la torture, quoi. Sous la torture, mais malgré tout, Hachem était à l'œuvre. Et Hachem va, comme on a dit, c'est que, au fond, le fameux récit national dont je vous ai parlé au début, notre récit national, c'est en fait le récit de l'intervention d'Hachem dans l'histoire. Notre récit national ne parle pas tellement de nous, il parle de l'intervention d'Hachem dans l'histoire. Alors, c'est à notre sujet qu'il intervient, mais ce qui est important, c'est cette intervention d'Hachem dans l'histoire. C'est ça qui est fondamental. On peut dire, effectivement, qu'il y avait donc une phase qui s'appelle, qu'on peut appeler grossesse, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, d'accord. Parce que dans cette phase-là, les choses se sont déroulées de façon absolument extraordinaire, hors du commun. Et d'ailleurs, si vous voulez, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, c'est Hachem, c'est le tétragramme Elokeinu, le tétragramme Elohim qui nous a sortis de Mitzray. Ce qu'Hachem a dit